Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Les assemblées, les partis politiques, les élections, etc.
La cinquième, c'est foutu.
Ça fait un changement république.
La sixième république.
Vive la république!
Salut, c'est Charlotte Baris. Nous sommes le lundi 24 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il ne vous aura pas échappé que ces derniers mois, la politique, la démocratie, les institutions françaises sont au cœur de nombreuses discussions. La réforme des retraites et le report de l'âge de départ à 64 ans ont cristallisé toutes les tensions, au point que beaucoup d'observateurs et d'acteurs parlent aujourd'hui de crise démocratique. La Ve République, instaurée le 4 octobre 1958, fête elle-même cette année ses 64 ans, ce qui fait dire à certains qu'il serait peut-être temps pour elle de partir à la retraite. D'autres réclament même, depuis longtemps parfois, une 6e République. Mais qui dit 5e, voire 6e, dit qu'il y en a eu 4 autres avant. Alors comment sommes-nous passés d'une République à l'autre? Les crises qui ont conduit à la fin de ces 4 Républiques ont-elles encore des conséquences aujourd'hui? Et peut-on en tirer des leçons pour notre régime actuel? Pour répondre à toutes ces questions, La Loupe se plonge cette semaine dans l'histoire du modèle républicain français. Depuis la Première République et Napoléon Bonaparte, jusqu'à la Quatrième et la guerre d'Algérie, en passant par le Second Empire et le régime de Vichy, nous allons parcourir plus de 2 siècles de politique. Épisode 1, la Première République et la naissance d'un régime à la française. Pour nous remémorer nos cours d'histoire, mais surtout pour analyser ces grands moments, nous avons trouvé l'interlocuteur idéal. En entendant le titre de son livre, vous allez comprendre pourquoi. Je vous le lis, « La force de gouverner le pouvoir exécutif en France du 19e au 21e siècle ». Son auteur s'appelle Nicolas Rousselier et il est avec moi en studio. Bonjour Nicolas et bienvenue dans La Loupe.
Bonjour Charlotte et merci.
Vous êtes historien et enseignant et vous allez nous accompagner tout au long de cette série. Alors, vous n'êtes pas venu avec un manuel d'histoire rempli de références, mais vous nous avez préparé des fiches résumées, comme celles qu'on fait à l'école pour apprendre des dates historiques.
Exactement, j'ai amené mes fiches bleues, en fait, concernant la Première République. Mm-hmm. Cette Première République, elle ne dure pas forcément très longtemps. Elle commence en septembre 1792, elle se termine en mai 1804. Elle s'appelle Première République, mais en fait, c'est tout de suite difficile à définir. La preuve, c'est que dans la même République, on place en fait plusieurs régimes, mm-hmm. puisqu'on a successivement la République qu'on appelle parfois la Convention, la République conventionnelle, le Directoire, le Consulat. 3 constitutions, en fait 3 régimes imbriqués dans une seule république.
C'est bien noté. Nicolas, je remarque que la première fiche que vous avez entre les mains, elle n'est pas bleue, mais blanche. Qu'est-ce qu'il y a dessus?
Eh bien, c'est en fait l'explication de pourquoi la Première République apparaît. La Révolution française, tout le monde le sait, commence en 1789.
La liberté ou la mort?
La liberté ou la mort?
Vive la Révolution!
Vive la Révolution!
Mais elle commence par un essai, une expérience de monarchie à laquelle il faut tout de suite associer le terme constitutionnel. Autrement dit, on essaye un compromis entre l'existence d'un roi prolongé, bien sûr c'est Louis XVI, et une assemblée qui est censée représenter, même plus que représenter, faire parler la nation. Mmh. Donc on a ce premier essai, ça tourne mal. On a, pour aller vite, une trahison de la monarchie, du roi Louis XVI et de la famille royale, qui a tenté de fuir la France.
Général ! Mon général, le roi est parti.
Parti où?
Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale.
C'est la fameuse fuite à Varennes. Varennes, c'est le nom de la petite ville où Louis XVI et la famille royale a été reconnus, puis arrêtés. Mm-hmm. Quand le roi trahit la nation, en fait, il perd presque tout parce qu'il perd cette légitimité.
Là, on est en juin 1791.
Exactement, juin 91. S'ajoute à cela C'est la deuxième explication qui nous amène à la Première République. L'atmosphère de guerre, la réalité des guerres. Là, on est au début de 1792, au mois d'avril. Cette atmosphère de guerre agite et aggrave les tensions sociales, les tensions politiques. Et donc, on aboutit, en fait, à la deuxième révolution à l'intérieur de la Grande Révolution, celle d'août 1792. Là, c'est donc, en fait, la chute du roi, hein, c'est la prise des Tuileries. Mmh. Le roi est arrêté, ensuite, il est jugé dans un procès et il est finalement exécuté, guillotiné. Là, on est en janvier 93. C'est là qu'apparaît, donc, la Première République, très exactement, 22 septembre 1792, qui va être appelé, avec le calendrier révolutionnaire, l'an 1 de la République française.
L'an 1, je me rappelle de quelques mois comme Brumaire et Thermidor, par exemple.
Exactement. On a donc un calendrier qui est utilisé, en fait, jusqu'en 1806. Ensuite, on repasse au calendrier traditionnel. Qu'est-ce que nous dit ce calendrier ? Il nous dit cette ambition extraordinaire, au sens propre du mot, non seulement de créer un nouveau régime politique, des nouvelles règles de la politique, mais en fait de refonder la manière dont toute une nation compte son temps. Mmh. Donc c'est l'idée qu'il y a à la fois un ordre nouveau, un nouveau siècle qui apparaît, comme aussi une sorte de nouvel homme, nouvelle humanité qui commence avec l'an 1.
Je lis la suite sur nos fiches bleues d'écolier. Je vois Constitution de 1793.
Oui, alors, il y avait déjà une première constitution. C'est ça qui a donné le nom de monarchie constitutionnelle, 1791. Et il y a une constitution pour ce nouveau régime qui s'appelle la République, la Constitution de 1793. En 92-93, tout le monde sait ce qu'il veut rejeter. Tout le monde sait qu'on rejette le roi pour sa trahison. Tout le monde ne veut plus la monarchie. Mmh. Donc vous avez une très grande clarté sur le rejet. Mais en revanche, un très grand flou sur qu'est-ce que l'on veut, quelle est tout simplement la définition un peu concrète d'une république. C'est pour ça que vous avez cette rivalité entre plusieurs types de constitutions à l'intérieur même de la république. Le principal problème que se pose une constitution républicaine, c'est est-ce qu'il faut maintenir à l'intérieur du cadre républicain ce qu'on appelle le pouvoir exécutif et qui est en fait l'héritage de la monarchie. C'est-à-dire que si vous définissez par exemple un pouvoir exécutif entre les mains d'une seule personne, ça ressemble diablement à un monarque. Mmh. Voilà. Donc on a tout de suite ce problème. L'autre grande tendance, celle de la Constitution de 1793, hein, qui est une constitution très à gauche, montagnarde. Là, ça va être de définir des procédés politiques, institutionnels, pour donner le plus possible la parole au peuple.
1793, c'est aussi la terreur, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Et donc, quelles conséquences ça a sur le régime ?
Cette Première République, elle a une difficulté à définir les règles du jeu, donc la recherche de la constitution idéale, mais elle a aussi cette difficulté concrète, comment tenir un gouvernement, comment gouverner. Et là, on gouverne dans quel pays ? 93, 94, on gouverne dans un pays en plein chaos. Un chaos extérieur, la guerre continue et même se développe, mais aussi un chaos intérieur, puisque commencent des guerres civiles intérieures. D'où cette idée, celle de Robespierre et de ses amis, d'afficher ce mot de terreur. Mm-hmm. La terreur, hein, ce sont des massacres, des exécutions et l'usage de la guillotine. La terreur se justifie par l'obligation de maintenir un gouvernement coûte que coûte face à des adversaires qu'on va qualifier d'ennemis de l'intérieur, et pour beaucoup qui seront donc éliminés. La fin de la terreur arrive par un phénomène, si vous voulez, de dégoût public, un ras-le-bol public concernant cette escalade d'exécution. L'autre aspect, c'est que de plus en plus, au cœur même du peuple parisien très, très révolutionnaire, il y a une inquiétude qui a commencé à poindre et qui s'est beaucoup développée sur le fait que Robespierre, ce républicain qui pense la République comme la République du peuple, a pris de plus en plus de pouvoir concrètement. Donc concrètement, on peut l'accuser d'être lui-même en train de devenir un roi, un monarque. Alors là, c'est rédhibitoire, on veut éliminer, et c'est ce qui se passe, Robespierre est arrêté en Thermidor à la fin du mois de juillet, arrêté et très rapidement exécuté, guillotiné.
Quel régime se met en place ensuite, sachant que, comme vous l'avez rappelé, on est toujours dans la Première République ?
Après Robespierre, donc c'est en fait des républicains qu'on va appeler thermidoriens, hein, c'est ceux qui ont arrêté Robespierre en Thermidor, en juillet 1994. Ces thermidoriens veulent redéfinir la République pour éviter le plus possible un pouvoir personnel. Mmh. D'où cette idée de directoire. Terme directoire qui veut dire en fait un pouvoir collégial. On met cinq personnes qui sont supposées être la tête du gouvernement républicain. Alors, l'idée, on pourrait dire, est assez belle, puisque ça empêche le pouvoir d'un seul, mais vous voyez tout de suite l'inconvénient, Charlotte, c'est que cela crée des dissensions, des tensions, et ça ne marche pas. Et puis, aux yeux de l'opinion, ces cinq directeurs sont un peu des invisibles, c'est-à-dire ils sont mal repérés, ils n'incarnent pas la République. Et l'incarnation, ça passe par la question du prestige. Ces cinq directeurs n'ont pas de prestige, ce sont des civils, ce sont aussi des hommes qui sont déjà un peu usés par la Révolution. Le grand contraste vient avec les militaires, qui continuent à se battre, bien sûr, pour la guerre extérieure, et qui, de plus en plus, le général Hoche, par exemple, sont de plus en plus prestigieux. Donc le directoire meurt de ses dissensions et il meurt peut-être encore plus de l'incapacité à avoir fait aimer la République pour sa grandeur. Ça se termine donc en 1799.
Arrive donc le consulat. Il est temps d'introduire un personnage clé de cette première République et surtout de sa chute, Napoléon Bonaparte.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On continue de parcourir nos fiches sur cette première République. Nicolas Rousselier, que fait Napoléon Bonaparte ?
Alors certains auditeurs pourraient s'étonner de dire qu'avec Napoléon Bonaparte, on continue à parler de République. Mais c'est le cas. Une fois et après que Napoléon a fait son coup d'État...
Soldats ! Par du droit que m'en donne le décret promulgué hier le 18 Brumaire, je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne.
On connaît notre devoir. En avant !
C'est le fameux coup d'État de Brumaire, 9 novembre 1799. Dans les années qui suivent, on continue à parler de République. C'est toujours le titre officiel. Napoléon Bonaparte n'arrive pas clé en main avec un régime d'empire ou avec une restauration du pouvoir d'un seul, le pouvoir d'un seul, monarchie. Il arrive en fait avec plutôt un itinéraire de républicain, bien sûr de militaire. Il a bien sûr en tête... En raison des très vives dissensions de l'époque du directoire, il a en tête de rétablir l'ordre, de rétablir l'unité, l'harmonie dans le pays. Donc, il va définir un pouvoir fort dans la République. Le consulat, c'est le nom. Donc, il est le premier consul. Il redéfinit, en fait, la République autour de ce poste de premier consul.
Pas besoin de nos fiches résumées pour savoir ce qu'il se passe ensuite. Comment on en arrive à Napoléon Ier, empereur des Français ?
Le récit républicain, c'est-à-dire la façon dont des républicains, plus tard, vont raconter la Révolution, vont nous dire, en fait, Napoléon Bonaparte veut le pouvoir suprême dès le départ. Donc le consulat est un peu, en fait, superficiel, que Napoléon Bonaparte a déjà en tête de se faire empereur. C'est le sacre de 1804. En réalité, c'est quand même plus compliqué, parce que le consulat est une tentative de peut-être de compromis entre république et monarchie. Les étapes qui amènent à 1804, c'est-à-dire le passage à l'Empire, ce sont des étapes aussi qui sont liées à la réalité du pouvoir. Vous avez toujours d'un côté la Constitution, et de l'autre, vous avez les nécessités du gouvernement. Rétablir l'ordre, rétablir par exemple la religion, l'Église catholique avec le Concordat de 1801, fait que ça concentre les pouvoirs, de fait. Donc l'Empire, c'est la traduction dans une nouvelle constitution, une de plus, de ce qui se passe dans les faits du gouvernement. Voilà. Le gouverné impose sa nécessité, la concentration du pouvoir entre les mains de Napoléon, qui, il faut le dire, ne déteste pas accaparer le pouvoir.
La Convention, le Directoire, le Consulat, on voit qu'en fait, dans cette première République pour la France, c'est l'instabilité qui domine.
Exactement. L'instabilité vient à la fois de la division des factions, qu'on appellerait aujourd'hui tendance ou parti politique. Il y a à la fois la division des factions, mais plus important, le fait de ne pas accepter cet état de division. La non-acceptation de la pluralité se transcrit pendant la Révolution par une culture politique immédiate. Quand il y a une division, c'est une source d'affaiblissement. Il y a cette obsession de recréer l'unité du peuple, dont on sent très bien qu'elle est toujours fragile. Ça peut passer par l'élimination de l'adversaire, les Montagnards éliminent les Girondins, Robespierre devient une sorte de dictateur. Avec Napoléon Bonaparte, c'est aussi le contrôle de la presse, la censure sur les théâtres. Donc il y a cette idée que si on veut, en quelque sorte, fonder le pouvoir du peuple, eh bien malheureusement, fonder le pouvoir du peuple passe par l'idée que le peuple doit rester un et indivisible. Derrière cette formule se cache en fait la non-acceptation du principe qui ensuite sera le principe moderne de la démocratie, le pluralisme.
Une instabilité qui, on a l'impression, vient aussi du fait qu'on ne sait pas ce qu'on veut pour cette République.
Oui, c'est ça. En fait, la République a une définition négative, c'est-à-dire on ne veut pas de monarque héréditaire. Mm-hmm. Mais une fois qu'on entre dans le détail, par exemple, comment fonctionne l'Assemblée ? Est-ce qu'il en faut deux ? Est-ce qu'il en faut une ? Le Directoire dira deux assemblées. Mm-hmm. Mais la période conventionnelle de la République dira non, non, surtout une seule assemblée, puisqu'on veut qu'une assemblée soit en quelque sorte le lieu physique où le peuple devient un. Donc il y a, dans le détail, il y a beaucoup de dissensions. Et en fait, vous avez une première République qui n'a pas de doctrine ou de théoricien républicain. Bien sûr, on pourrait me parler de Jean-Jacques Rousseau et des philosophes des Lumières, mm-hmm. mais ils sont quand même un peu loin dans le passé. Et surtout, ils n'ont jamais donné la recette de ce que serait une République dans l'action, une République dans le concret. Il n'y a pas une constitution qui soit la constitution adéquate au principe de République.
On pourrait vous dire aussi qu'il y a d'autres exemples ailleurs. Vous parlez des États-Unis, on peut aussi citer la Suisse.
Oui, il y a l'exemple aussi des républiques urbaines qui viennent du Moyen-Âge d'ailleurs et qui étaient nombreuses en Italie, mais aussi quelques-unes en Allemagne. Alors, ces exemples existent, mais ils ne paraissent pas adaptés à la France. La Suisse est trop complexe, trop confédérale pour valoir aux yeux des Français. La République américaine intéresse les révolutionnaires français, certains d'entre eux en tout cas, mais elle paraît encore très jeune, très neuve. Elle-même, elle est fragile. Elle a dû s'y reprendre à deux fois pour faire une constitution. Puis la deuxième raison, c'est que les Français, c'est la grande nation. Vous avez 3 à 5 millions d'Américains aux États-Unis. Vous avez à ce moment-là 40 millions de Français. Mmh. Vous êtes la grande puissance européenne du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc, bon, on est Français, je plaisante un peu, on est Français. Pas question quand même d'aller imiter des Américains qui paraissent un peu sauvages quand même, un peu lointains, ou des Suisses qui sont très proches, mais très particuliers.
Est-ce qu'on peut dire que la Ve aujourd'hui est influencée par la Première République ?
Alors la réponse est oui, spontanément, parce que la Ve République, comme aussi la IVe et d'autres, ont gardé de la Révolution française la Déclaration des droits de l'homme. Mmh. La Déclaration des droits de l'homme, c'est 1789, donc c'est la monarchie constitutionnelle, mais elle a été fabriquée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, dès 1789, représente cette République, ce pouvoir censé être le peuple. Et puis, il y a une autre déclaration en 93, plus radicale, plus à gauche, qui peut aussi inspirer toutes les républiques suivantes. Donc, la Première République, on pourrait dire ad vitam aeternam, pour l'éternité, a posé le principe. Donner des droits à tous, mais on pose un principe sans avoir la recette, hein, sans avoir le développement institutionnel. Donc, pour répondre à votre question sur Première République par rapport à Cinquième, ou réciproquement, il y a un élément qui est extrêmement différent, c'est que la Ve République ne va pas s'inspirer de la Première République pour penser l'organisation concrète du pouvoir.
La Première République et ses 12 années d'instabilité politique ont donc un peu influencé notre régime actuel. Merci Nicolas Rousselier pour ce premier épisode.
Merci à vous et je prépare déjà mes fiches. Cette fois-ci, elles seront jaunes. Pour demain.
Je rappelle que vous êtes historien et demain, avec vous, on parlera logiquement de la Deuxième République et surtout d'un autre Bonaparte. Alors, chers auditeurs, pour ne pas rater ce deuxième épisode, pensez à vous abonner à La Loupe. Vous pouvez vous rendre sur n'importe quelle plateforme de podcast, par exemple Castbox, Deezer ou Apple Podcast. Vous pouvez également nous écouter sur l'application de L'Express, dans l'onglet Audio. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix.